chemin de vie. Chers amis, c'est avec plaisir que nous commençons une nouvelle semaine avec vous. Vous êtes à l'écoute de Chemin de vie. Cette rubrique est diffusée chaque jour sur votre radio locale, du lundi au vendredi à 7h. Au micro, Heidi.
Ainsi que Jean, et à la technique, comme à l'accoutumée, nous avons Daniel. Vous savez que depuis 2 semaines, nous feuilletons la Bible dans le livre des Proverbes, un livre plein de sagesse. De quel propos Jacques Hostie va-t-il nous entretenir pour débuter cette semaine, Heidi ?
Il s'agit d'un sujet tellement actuel, une mise en garde contre l'adultère, les mauvaises fréquentations qui guettent l'homme, que d'ailleurs la Bible n'hésite pas à nommer insensé. Auparavant, laissons-nous encourager par cette chanson du groupe Tekoa, intitulée « Le malheur n'en sortira pas vainqueur ».
Quelque chose a changé depuis qu'il est parti. Rien n'est pareil, si dur de vivre sans lui. C'est comme si la terre s'arrêtait de tourner. Quand on perd quelqu'un qu'on aimait, et de te voir ainsi me transperce le cœur. Mais moi je n'ai pas de remède à ta douleur, par un peu d'amour et de douceur pour t'aider dans ce grand malheur. Ceux qui comme toi ont traversé ce si long chemin te diront qu'on n'oublie jamais. Chaque jour tu y penseras, et jusqu'à la fin ta peine il faudra surmonter.
Le meunier, son fils et l'âne, La Fontaine cite un proverbe remontant au 15e siècle et qui dit « On ne peut contenter tout le monde et son père », ce qui veut dire qu'il est impossible de suivre tous les conseils que l'on vous donne. C'est vrai, mais si mes parents m'ont élevé selon les principes de la vieille école, leur enseignement inspiré de la tradition judéo-chrétienne doit avoir le précédent sur les autres. Je continue à lire dans le chapitre 6 du livre des Proverbes. « Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. » Versets 20 à 21. Le jeune homme a grandi, mais le maître lui rappelle de garder à l'esprit et dans son cœur l'instruction qu'il a reçue de ses parents. Je continue. La sagesse te guidera quand tu voyageras, elle veillera sur toi durant ton sommeil et s'entretiendra avec toi à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les réprimandes de la sagesse sont le chemin vers la vie. Versets 22 à 23. La sagesse consiste à avoir pour Dieu la plus grande déférence et à obéir aux règles qu'il a données. Sous le régime de l'Ancienne Alliance, Dans l'Ancien Testament, donc, les jeunes apprenaient la sagesse au travers des préceptes paternels et des leçons maternelles. La discipline qui leur était imposée, quoique douloureuse, les aidait à rester dans le chemin qui mène à la vie. En respectant leurs parents et en suivant leurs conseils, ils se protégeaient contre les pièges de la vie. Ainsi équipé, le jeune homme était capable de discerner quel bon comportement adopter et quelle bonne décision prendre. Le maître de sagesse enseigne comment trouver le bonheur par le chemin de la piété. Je continue. Les réprimandes de la sagesse te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Verset 24. L'auteur revient au sujet précédent, l'adultère et les dangers des péchés d'ordre sexuel. Il se place selon un point de vue pragmatique plutôt que moral. Les sociologues estiment qu'environ une personne sur deux se rend coupable d'adultère au moins une fois dans son mariage, et les conséquences sont le plus souvent désastreuses, même lorsque le couple ne se sépare pas, car le souvenir de cette trahison les hante et les enfants en pâtissent. Je continue. « Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades. » Verset 25. Ce genre de femme devint monnaie courante en Israël après que la nation rejeta l'Éternel. Je lis un texte. « Les filles de Sion se sont enorgueillies. Regardez-les qui marchent en redressant la tête, lançant des regards provoquants. Elles s'avancent à petits pas en faisant résonner les anneaux de leurs pieds. » Fin de citation. Jésus a dit, « Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Fin de citation. La convoitise des yeux commence toujours dans le cœur. C'est pour cela que précédemment, le maître de sagesse a exhorté le jeune homme disant, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Fin de citation. Je continue le texte. « Car, à cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain, et la femme adultère met en péril une vie précieuse. » Verset 26. L'adultère a un coût exorbitant. Lorsqu'un homme se laisse attirer par la femme séductrice, il met en jeu sa réputation, son mariage et ses richesses, soit pour entretenir sa maîtresse, soit parce qu'elle le fait chanter, soit pour payer le divorce. Il joue également sa vie et celle des autres. Un jour que je participais à une conférence dans notre groupe de travail, une femme a confessé qu'elle avait toujours été droite comme un i, mais était quand même infectée avec le virus du sida que lui avait refilé son mari volage. Je continue. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. Versets 27 à 29. L'auteur utilise un raisonnement par l'absurde. Les conséquences de l'adultère sont inévitables parce qu'il est comparable à un feu qui dévore ceux qui jouent avec lui. Les relations sexuelles illicites s'apparentent à la roulette russe. Il suffit d'une fois. Comme dit le proverbe, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Je continue. On ne traite pas à la légère, celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Mais s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Versets 30 à 31. C'est un raisonnement a fortiori. Quand quelqu'un vole parce qu'il a faim, on a pitié de lui. Pourtant, et même s'il a des circonstances atténuantes, si on l'attrape, il sera puni. alors combien plus celui qui est coupable d'adultère. Selon la loi de Moïse, dans le pire des cas de vol, la restitution devait être 5 fois la valeur dérobée. Alors 7 fois, c'est probablement après entente avec la partie lésée pour effacer toute trace et toute tache et être entièrement réhabilité. Je finis le chapitre 6. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais, car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents. Versets 32 à 35. Pour s'exposer aux conséquences d'un adultère, il faut vraiment être stupide ou vouloir se perdre. C'est du suicide, car aucune réparation n'est possible. Non seulement le coupable et sa famille seront déshonorés, mais selon la loi de Moïse, lui et la femme devaient être mis à mort. Dans certaines cultures, coucher avec la femme d'autrui donne au mari lésé le droit de tuer le fautif. On est loin des films hollywoodiens qui prennent ces choses-là à la rigolade. Dans notre société, ceux qui se veulent modernes disent ne pas avoir de problème avec une affaire et se moquent même du conjoint trompé. Mais si une telle mésaventure leur arrive, le ton change, car il faut bien avouer qu'un adultère est comme un coup de poignard dans le dos. C'est toujours dramatique pour quelqu'un. Le chapitre suivant continue à disserter sur le danger que représente la femme séductrice pour un jeune homme. Après un court préambule, l'auteur raconte ce qu'il a observé. Même si l'histoire est une allégorie de la folie sous les traits d'une femme, celle-ci a vraiment existé et son influence malfaisante fut réelle. Si l'auteur ne parle que de la femme mariée et pas des jeunes filles, c'est parce qu'en Orient, elles étaient plus ou moins cloîtrées et donc inaccessibles. De plus, dans les 10 commandements, on lit les 2 préceptes « Tu ne commettras pas d'adultère » et « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Ce qui est un double avertissement contre l'adultère. Je commence à lire le chapitre 7. « Mon fils, retiens mes paroles, imprègne-toi de mes préceptes, obéis à mes directives, et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Versets 1 à 2. La pupille est la partie la plus sensible de l'œil et l'organe le plus exposé du corps. Le texte hébreu lit « comme le petit homme de tes yeux », parce que la pupille est un miroir qui reflète le portrait de celui qui est en face d'elle. Je continue. « Porte-les comme un anneau à ton doigt, grave-les sur les tablettes de ton cœur. » Verset 3. Précédemment, et parlant de l'enseignement paternel, le maître de sagesse a dit « que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut ». Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur. Fin de citation. Maintenant, c'est au doigt et toujours dans le cœur que le jeune homme doit conserver l'instruction reçue. Aujourd'hui encore, pendant leur prière, certains juifs enroulent autour du bras et du doigt majeur gauche des bandelettes de cuir ou de parchemin portant des inscriptions sacrées. Je continue le texte. Considère la sagesse comme ta sœur, accueille l'intelligence comme une amie, pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses. Versets 4 à 5. Dans l'Ancien Testament, le mot sœur voulait également dire bien-aimée. Le jeune homme doit être des plus intimes avec dame sagesse, afin qu'elle le préserve de dame folie. Je continue. Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre et je vis parmi les stupides, j'observais parmi les jeunes, un jeune homme dépourvu de sens. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes, se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, au cœur de la nuit et de l'ombre. Versets 6 à 9. Dans les pays chauds, les fenêtres sont souvent fermées par des persiennes dont les lattes tamisent les rayons du soleil, tout en permettant de voir sans être vu. L'auteur observe le manège d'un rendez-vous. Dès la nuit tombée, un jeune homme, évidemment stupide, se dirige vers la maison de cette femme qui traîne au coin de la rue. Il n'a pas écouté Dame Sagesse quand elle lui a dit « Si tu ne veux pas rencontrer le diable, ne va pas dans son quartier ». Je continue le texte. « Or, voici que cette femme vint à sa rencontre, mise comme une prostituée et le cœur faux. Elle parlait fort et sans retenue, et ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours. » Versets 10 à 12. Le portrait précis de cette femme montre bien qu'il s'agit d'une histoire vécue et que l'auteur la connaissait personnellement. Le texte dit littéralement qu'elle est gardée de cœur, c'est-à-dire qu'elle en est la maîtresse, ne l'ayant donnée à personne et donc ne nourrissant que des sentiments hypocrites à l'égard de son mari et de ses amants. Son accoutrement séducteur, façon Moulin Rouge, montre qu'elle était tombée au plus bas. Je continue. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et, le regardant droit dans les yeux, elle lui dit « J'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. » Versets 13 à 14. Lorsque les Israélites sacrifiaient un animal à l'Éternel, une part revenait au prêtre et lorsque l'adorateur faisait un vœu, le reste devait être mangé le jour même. Donc, le jeune homme est convié à participer à un festin. Cette situation a un caractère très incongru au vu des agissements de cette femme séductrice. Ça prouve aussi qu'à l'époque où cette histoire a été écrite, seule la lettre de la loi était observée et les offrandes revêtaient un caractère très profane. Je continue. « Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couvertures et d'étoffes multicolores brodées en fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté. » Versets 15 à 18. « Cher et prisé, le lin d'Égypte était un signe de richesse. Les trois aromates sont mentionnés avec d'autres dans un hymne à l'amour écrit par Salomon. Ils étaient brûlés sur des brasiers et produisaient une épaisse fumée à laquelle on exposait les tissus qu'on voulait parfumer. La myrrhe est la résine d'un arbuste qui pousse en Afrique orientale et en Arabie. C'était un des parfums les plus appréciés de l'Antiquité. On le transformait en petits grains bruns, rouges ou jaunes, plus ou moins transparents. Les Égyptiens s'en servaient pour embaumer les momies et dans leur culte religieux. Elle était encore utilisée au temps de Jésus. L'aloès est le bois d'un arbre originaire de l'Inde et la cinnamome est l'écorce d'une espèce de laurier qu'on trouve dans le sud-est asiatique proche du camphrier. Je continue. Car l'homme n'est pas à la maison. Il est parti pour un long voyage, dit-elle. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. Par son éloquence, elle le fit fléchir. Par ses doux propos, elle l'entraîna. Alors il se mit soudain à la suivre comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un homme garrotté. Jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans se douter qu'il y va de sa vie. Versets 19 à 23. La séductrice donne au jeune homme des renseignements destinés à dissiper ses craintes, puis l'enjôle par des paroles onctueuses. La tentation est diablement forte, et je pèse mes mots. Le malheureux y cède et marche dans la combine. Il se met à la suivre dans son boudoir comme une bête va à l'abattoir, ne se doutant pas des conséquences de son acte. Je continue. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Prêtez attention à mes paroles, que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers. Versets 24 à 25. La racine du problème de ce jeune homme est dans son cœur. Il est allé où il n'aurait pas dû être, et il ne s'était pas préparé à résister à un tel assaut de sa sensualité. Alors, voyant et entendant cette femme de rêve, il s'est laissé aller à ses fantasmes sexuels. Il faut dire que même pour un jeune homme parfaitement intègre, s'il est normalement constitué, la partie aurait été très dure. Il vaut donc beaucoup mieux éviter, comme la peste, de se trouver dans une telle situation. Je finis le chapitre. Car nombreuses sont ses victimes blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est sur les chemins qui aboutissent au séjour des morts. Ils descendent dans les demeures de la mort. Versets 26 à 27. L'auteur élargit sa conclusion en parlant non d'une séductrice en particulier, mais des femmes mariées racoleuses. Un jeune homme qui s'est laissé prendre peut mourir ruiné ou aux mains d'un mari jaloux, ou d'une maladie vénérienne, ou même d'angoisse émotionnelle due au remords. Bref, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Alors que ce chapitre parle de l'adultère au sens propre du terme, il existe un autre adultère qui est spirituel. C'est l'idolâtrie sous toutes ses formes. Dans le dernier livre du Nouveau Testament, il est question d'une prostituée qui n'est pas une femme à proprement parler, mais qui représente les systèmes de croyances, que ce soit les philosophies, les grandes religions ou les sectes d'origine chrétienne, qui ont toutes rajouté quelque chose à Jésus. Cette prostituée spirituelle est-elle aussi une grande séductrice, revêtue de toutes sortes d'accoutrements variés qui la rendent attrayante? Elle aguiche le passant et flatte sa vanité en cherchant à l'entraîner dans un système qui conduira son âme à la perdition. Selon l'épître de Paul aux Galates, l'homme obtient la vie éternelle par la foi en Christ, plus absolument rien d'autre. Ce n'est pas que la loi de Moïse avait un problème qui nécessitait son remplacement, car elle était bonne et parfaite. Non. Le problème, c'est nous, vous et moi, qui sommes mauvais et incapables de lui obéir. Voilà pourquoi nous devons exclusivement nous confier en Jésus et à son sacrifice sur la croix. Tous les jeunes qui veulent faire des études supérieures consultent les différents programmes qui s'offrent à eux. Pour mener sa barque dans cette vie, je suis également convié à choisir entre deux écoles fort différentes. Dans l'une, on enseigne la folie et dans l'autre, la sagesse. C'est cette dernière qui, dans le chapitre 8, a la parole. Elle va décrire tout ce qu'elle peut offrir afin de me persuader de m'inscrire à son école. Pour être le plus efficace possible, elle s'est personnellement déplacée et entre sur scène où elle fait fortement sentir sa présence. Avec le plus grand sérieux et une autorité incontestable, elle fait tout pour se faire entendre. Je commence à lire le chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas, et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes, au carrefour, tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer, elle fait retentir sa voix. Versets 1 à 3. Ces questions de rhétorique sont en hébreu un moyen d'affirmer des faits catégoriques. La femme adultère et trompeuse n'est pas la seule à appeler dans les rues. Face à elle et à ses propositions qui mènent à la honte et à la mort, voici que se dresse la femme vertueuse et intègre qui annonce la suprême vérité qui conduit au bonheur et à la vie. Alors que Dame Folie agit en secret sous le couvert des ténèbres, Dame Sagesse s'adresse d'une voix tonitruante à tous ceux qui veulent bien lui prêter attention. Elle agit en plein jour, en se rendant visible sur les places publiques, sur les parties hautes et aux entrées principales. C'était là que les notables de la ville venaient siéger pour rendre la justice et où avaient lieu toutes les transactions commerciales. Dame Sagesse choisit les endroits les plus propices pour atteindre tout le peuple, les grands et les petits. Qui veut bien l'écouter ?
Venons d'entendre Nicolas Ternicien qui chantait « Grand Dieu, nous te bénissons ». Je vois que l'aiguille de la pendule tourne inexorablement, amis auditeurs, et qu'il est grand temps de prendre congé de vous. Si vous souhaitez nous contacter pour obtenir le texte de ce jour ou des précédents, ou simplement nous poser des questions, voici notre numéro de téléphone. 0820 200 628, c'est un numéro Indigo. 0820 200 628.
Vous pouvez aussi consulter notre site internet sans modération, chemindevie.info. Chemins au pluriel et le tout en un seul mot. chemindevie.info. Au revoir et à demain.
À demain.